From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, vous allez assister à la session de la prêtrise de la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise d'Aaron provenant des pieux de Murray en Utah.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera la session de la prêtrise de ce soir.
Brethren, we welcome you.
Chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Cette réunion est transmise par satellite et par l'Internet aux détenteurs de la prêtrise du monde entier. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise d'Aaron, composé de jeunes gens, des pieux de la région de Murray, en Utah, sous la direction de Kelly Dehan, avec Richard Elliott à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Sing praise to him ». Ensuite, Paul E. Kolliker, qui a été relevé cet après-midi de son appel au premier collège des 70, fera la prière d'ouverture.
Oh. Our eternal Father in heaven.
Notre cher Père éternel. Nous sommes rassemblés pour cette réunion de session générale de prêtrise en te remerciant de l'invitation qui nous a été donnée de la première présidence et du Collège des Douze afin d'être enseigné pour apprendre les principes de direction de ton Église. Nous te remercions pour les révélations qui ont amené le rétablissement de la prêtrise. Nous te remercions pour les bénédictions des collèges, les bénédictions des clés de la prêtrise. Nous te remercions pour le pouvoir et les révélations. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète bien-aimé, présent Thomas Esmondson. Nous te remercions de sa direction et de son exemple et du modèle de direction qu'il nous donne en tant que dirigeant. Nous te prions afin que nous puissions suivre aussi l'exemple de notre prophète bien-aimé. Cher Père, nous te remercions pour les missionnaires et te prions afin que, en tant que membre de l'Église, en responsabilité, nous soyons aptes à accepter cette responsabilité de partager l'Évangile avec ceux qui n'ont pas encore reçu. Nous te remercions pour les révélations qui ont à faire et sont en harmonie avec les révélations et les ordonnances du Temple. Et nous te prions pour que tu puisses nous aider à rester dignes de pouvoir œuvrer. Père, tandis que nous sommes assemblés ce soir, nous te prions afin que le Saint-Esprit soit avec nous. Et encore plus important, pour que nos cœurs puissent être ouverts pour écouter sa voix et que nous puissions être édifiés ensemble. Et nous te prions pour tout cela avec humilité, au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir will now favor us with
Le chœur va maintenant interpréter Like 10,000 Legion Marching. Après ce chant, nous aurons le plaisir d'entendre Elton Perry du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Gérald Cossé de l'Épiscopat Président. Ensuite, Randy D. Funk des 70 nous adressera la parole.
Oh,
Quand j'ai reçu la tâche de prendre la parole à la session de la prêtrise de la conférence générale, j'ai immédiatement pensé à une merveilleuse instructrice de la primaire. Son plus grand désir était de nous préparer à être dignes de recevoir la prêtrise. Elle nous interrogeait souvent sur les conditions requises pour recevoir le diplôme de la primaire. Mémoriser les noms des membres du Collège des 12 apôtres et les articles de foi. Elle nous faisait aussi une promesse. Si nous pouvions tous réciter les 13 articles de foi, nous pourrions choisir l'endroit où aller pour notre dernière leçon. Nous avons convenu d'un endroit particulier où nous aimions escalader les pentes rocheuses, juste au-dessus du premier barrage à l'entrée du canyon de Logan. Dans ces falaises se trouvait un petit endroit plat qui formait un âtre naturel où l'on pouvait faire cuire des hot dogs et griller de la guimauve. Toutefois, en choisissant le lieu, nous n'avions pas pensé à notre instructrice qui était d'âge mûr et certainement pas du genre sportif. Si nous y avions mieux réfléchi, nous nous aurions rendu compte qu'elle aurait des difficultés à faire cette randonnée. Mais ce qui était promis était promis. Elle a joué le jeu et nous a suivis. Tout d'abord, nous avons escaladé la petite colline. À l'époque, il n'y avait aucune ligne électrique pour en empêcher l'accès. Et avec un peu d'aide, notre instructrice a atteint le sommet de la colline. Une fois en haut, nous sommes descendus dans une crête rocheuse jusqu'à un endroit que nous appelions le dos de la tortue. Après notre arrivée, il a fallu un peu de temps à notre instructrice pour retrouver son souffle. Le temps que nous préparions le repas et que nous soyons assis pour manger, elle avait suffisamment récupéré pour nous faire une dernière leçon. Elle nous a dit tout le plaisir qu'elle avait eu à nous instruire à la primaire au cours des deux dernières années. Elle nous a félicités de notre maîtrise des articles de foi. Elle pouvait nous donner le numéro de l'un d'eux et nous pouvions le lui réciter. Elle nous a alors dit que mémoriser les articles de foi ne signifierait rien de plus que de connaître beaucoup de mots si nous n'en comprenions pas la doctrine et les principes. Elle nous a invités à étudier le point de doctrine de l'Évangile enseigné dans chacun des articles de foi. Elle nous a expliqué que la doctrine énoncée dans les articles de foi était divisée en plusieurs parties. Nous apprenons dans le premier article de foi que la divinité est composée de trois personnages, Dieu le Père, Jésus le Christ et le Saint-Esprit. Le deuxième article de foi nous enseigne que nous sommes responsables de nos propres actes sur terre. Le troisième nous donne une vision de la mission du Sauveur pour le salut des enfants de notre Père Céleste. Le quatrième nous enseigne l'importance des principes et ordonnances de base. La puissance des paroles de notre instructrice a été une source d'inspiration pour moi, parce qu'elle mettait l'accent sur la valeur de l'étude de l'Évangile. Les Écritures nous guident vers un modèle de vérité, par lequel nous pouvons juger de la véracité ou de la fausseté de la connaissance que nous recevons. La doctrine vraie vient de Dieu. La source est le fondement de toute vérité. Les enseignements et les concepts de la doctrine vraie se trouvent dans l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur. Les faux enseignements viennent de Satan, le père du mensonge. Son désir est de pervertir, de changer et de modifier les vérités révélées. Il veut nous tromper pour que certains de nous se perdent pendant le voyage de retour vers notre foyer céleste. Les Écritures nous enseignent la manière d'éviter les faux enseignements. Par exemple, dans la lettre de Paul à Timothée, nous lisons « Toute Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger ou pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce point de doctrine est à l'Église ce qu'une batterie est à un téléphone portable. Quand on retire la batterie du téléphone, il devient inutile. Une Église dans laquelle la vraie doctrine n'est plus enseignée, tout aussi inutile. Elle ne peut pas nous ramener auprès de notre Père céleste et à notre foyer céleste. Une fois que nous avons commencé à comprendre la doctrine de base du Christ, les cinquième et sixième articles de foi nous enseignent l'organisation et l'ordre de la prêtrise. Sous la direction du Seigneur, Joseph Smith a organisé l'Église du Sauveur en utilisant l'autorité de la prêtrise, le pouvoir de Dieu. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a la même organisation que celle que le Christ avait créée quand il était sur terre. Quel jour glorieux cela a été pour Joseph Smith et Oliver Cowdery en mai 1829, quand ils sont allés dans les bois pour prier à propos de la doctrine du baptême pour la rémission des péchés, qu'ils avaient lu en traduisant le livre de Mormon. Au début des années 1800, il y avait de nombreux enseignements sur le baptême qui étaient prêchés par différentes églises. Et Joseph et Oliver savaient qu'ils ne pouvaient pas tous être vrais. Ils voulaient connaître la manière correcte de baptiser et également savoir qui détenait l'autorité de baptiser. En réponse à leur demande au Seigneur, Jean-Baptiste, un messager venu des cieux, leur apparut. Il plaça ses mains sur leur tête, l'une après l'autre, et leur conféra l'autorité de baptiser par ces mots. À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron. Quel jour merveilleux dans l'histoire du monde. La prêtrise était rétablie sur terre. Quand nous recevons la prêtrise, nous recevons l'autorité d'agir au nom de Dieu et de mener sur la voie de la vérité et de la justice. Cette autorité est une source vitale de pouvoir et d'influence juste pour le bénéfice des enfants de Dieu sur terre, qui durera au-delà du voile. Il était nécessaire que la prêtrise soit rétablie pour que la véritable Église de Jésus-Christ puisse être organisée. C'est la leçon fondamentale que nous apprennent les cinquième et sixième articles de foi. Les trois articles de foi suivants, le septième, le huitième et le neuvième, parlent des ressources disponibles pour nous instruire pendant notre voyage terrestre. Nous recevons des dons spirituels pour nous guider quand nous suivons les enseignements du Seigneur et pour nous protéger du mal. Les Écritures sont un autre guide. Si nous nous tenons fermement à la parole de Dieu, nous resterons sur le chemin de la vie éternelle. Le neuvième article de foi nous enseigne que Dieu a révélé, révèle et révélera à l'avenir beaucoup de vérités grandes et importantes à ses prophètes, voyants et révélateurs. Nous apprenons qu'en plus de l'écoute, du murmure doux et léger de l'esprit, et de la lecture des Écritures, nos dirigeants de l'Église sont un autre guide. Ils sont choisis, appelés et mis à part pour être une bénédiction pour nous par les leçons qu'ils nous enseignent. Les 10e, 11e et 12e articles de foi nous enseignent la façon d'accomplir l'œuvre missionnaire et de parler de l'Évangile dans un monde composé de différents pays et lois. On nous parle du rassemblement d'Israël en préparation de la seconde venue du Sauveur. Nous apprenons que les hommes et les femmes sont libres d'agir et qu'ils peuvent accepter ou refuser la parole de Dieu selon leur conscience. Et enfin, nous apprenons qu'en répandant l'évangile de Jésus-Christ aux quatre coins du monde, nous devons respecter le gouvernement de chaque pays où nous nous trouvons. Nous croyons en vérité que nous devons respecter, honorer et défendre les lois de chaque pays. Le 13e article de foi nous donne une perception particulière de la façon dont nous devrions vivre et nous comporter. Je cite, « Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que nous devons faire du bien à tous les hommes. En fait, nous pouvons dire que nous suivons l'exhortation de Paul, nous croyons tout, nous espérons tout, nous avons supporté beaucoup, et nous espérons être capables de supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Nous devrions tous aspirer à incarner ces vertus et en donner l'exemple dans notre vie. Les vérités enseignées dans les articles de foi reposent les unes sur les autres, comme les composants d'un téléphone portable se complètent mutuellement. Tout comme la chaîne logistique qui ajoute des composants à un téléphone portable. Les articles de foi nous donnent les points de doctrine clés du rétablissement. Chaque article de foi ajoute une valeur unique à notre compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ. Mon instructrice de la primaire m'a instillé la détermination d'étudier la doctrine du royaume. Elle m'a enseigné à chercher la signification profonde contenue dans ces simples articles de foi. Elle m'a promis que si je m'investissais dans l'étude de ces vérités sacrées, la connaissance que j'acquérais améliorerait ma vie. Et je vous témoigne que c'est le cas. Après cette merveilleuse leçon de mon instructrice sur cette montagne du canyon de Logan, nous nous sommes rendus compte que nous y étions restés plus longtemps que prévu. La soirée se terminait et nous avons compris que nous avions un problème. Mon instructrice avait eu du mal à atteindre cet endroit particulier, mais rentrée présentait un autre défi majeur. Cela a illustré, une fois de plus, le mauvais choix de l'endroit pour notre sortie. La remontée a été difficile pour nous, mais elle a été encore plus pour quelqu'un de son âge. Tandis que nous l'aidions tant bien que mal à remonter la colline, deux policiers sont apparus. La présidente de la primaire les avait envoyés à notre recherche, craignant que nous ne soyons perdus. Les péripéties de cette activité, les leçons données, ont été une expérience inoubliable pour moi. Jeunes gens, je vous recommande d'utiliser votre vivacité d'esprit pour étudier et apprendre les articles de foi et la doctrine qu'ils enseignent. Ils font partie des déclarations de doctrine les plus importantes et certainement les plus brèves de l'Église. Si vous les utilisez comme guide pour diriger vos études de l'Évangile de Jésus-Christ, vous serez prêt à témoigner de la vérité rétablie au monde. Vous pourrez proclamer d'une manière simple, directe et profonde les croyances fondamentales que vous chérissez en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. J'ajoute mon témoignage de la vérité des 13 véracité des 13 articles de foi au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
La plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre, se sont trouvés dans une situation nouvelle, où ils étaient dépaysés et éprouvaient un sentiment d'insécurité. C'est arrivé à notre famille il y a environ 5 ans, quand le président Manson m'a appelé à servir comme autorité générale de l'Église. Cet appel a impliqué que notre famille quitte le bel endroit où nous étions heureux de vivre depuis plus de 20 ans. Ma femme et moi, nous souvenons encore de la réaction instantanée de nos enfants quand ils ont appris le changement. Notre fils, âgé de 16 ans, s'est exclamé « Pas de problème, vous pouvez partir, moi je reste ». Ensuite, il s'est vite résolu à nous accompagner et a saisi avec foi cette nouvelle possibilité qui lui a été offerte. Au cours de ces dernières années, l'expérience de vivre dans des endroits nouveaux s'est révélée édifiante et agréable pour notre famille, en particulier du fait de la bonté et de l'accueil chaleureux des saints des derniers jours. Vivre dans des pays différents a confirmé pour nous que l'unité du peuple de Dieu à travers le monde est quelque chose de réel et de tangible. Mon appel m'a conduit dans de nombreux pays où j'ai eu le privilège de présider de multiples réunions. En observant les diverses assemblées de membres de l'Église, j'y vois souvent des personnes représentant de nombreux pays, langues et cultures. L'un des merveilleux aspects de notre dispensation de l'Évangile est qu'elle n'est pas limitée à une région géographique ou un groupe de nations. Elle est globale et universelle. Elle prépare le retour en gloire du Fils de Dieu en rassemblant ses enfants des quatre coins de la terre. Malgré la diversité croissante des membres de l'Église, notre héritage sacré transcende nos différences. En tant que membres de l'Église, nous sommes admis dans la maison d'Israël. Nous devenons frères et sœurs, héritiers à parts égales d'un même lignage spirituel. Dieu a promis à Abraham que tous ceux qui recevront l'Évangile seront appelés de son nom, seront considérés comme sa postérité et se lèveront et le béniront, lui, leur père. Une promesse a été faite à quiconque devient membre de l'Église. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Le mot « étranger » vient du latin « extraneus », qui signifie « extérieur » ou « du dehors ». Il désigne généralement celui qui est « autre » pour de multiples raisons, qui peuvent être son origine, sa culture, ses opinions ou sa religion. En tant que disciples du Christ, qui nous efforçons d'être dans le monde, mais pas du monde, nous nous sentons parfois étrangers. Mieux que quiconque, nous savons que certaines portes peuvent se fermer devant les personnes considérées comme différentes. De tout temps, le peuple de Dieu a reçu le commandement de prendre soin des personnes étrangères ou considérées comme différentes. Dans les temps anciens, l'étranger bénéficiait du même devoir d'hospitalité et d'entraide que la veuve et l'orphelin. Comme eux, il était dans une situation de grande vulnérabilité et sa survie dépendait de la protection qu'il recevait de la part des populations locales. Le peuple d'Israël avait reçu des instructions précises à cet égard. Vous traiterez l'étranger parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Jésus, pendant sa mission terrestre, nous a montré l'exemple en allant bien au-delà de la simple obligation d'hospitalité et de tolérance. Tous les exclus de son époque, ceux qui étaient rejetés et considérés comme impurs par les bien-pensants, avaient droit à sa compassion et à son respect. Ils recevaient une part égale de son enseignement et de son ministère. Par exemple, bravant les interdits de son époque, le Sauveur s'est adressé à la Samaritaine pour lui demander un peu d'eau. Il s'est attablé pour manger avec les péagers et les collecteurs d'impôts. Il n'a pas hésité à se rapprocher du lépreux et à le toucher pour le guérir. Admirant la foi du centenier romain, il a dit de lui à la foule « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ». Jésus nous a demandé d'observer la loi de l'amour parfait, qui est un don universel et inconditionnel. Il a dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même ? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Dans cette Église, il n'y a ni étrangers ni exclus. Il n'y a que des frères et des sœurs. La connaissance que nous avons d'un Père éternel nous rend plus sensibles à la fraternité qui devrait exister entre tous les hommes et les femmes qui peuplent la terre. Un épisode du roman « Les Misérables » illustre bien l'attitude que les détenteurs de la prêtrise pourraient avoir vis-à-vis des personnes dites étrangères. Jean Valjean vient de sortir du bagne. Épuisé par un long voyage, mourant de faim et de soif, il arrive dans une petite ville et cherche un endroit où se restaurer et un logis où passer la nuit. Quand la nouvelle de son arrivée se répand, toutes les portes se ferment, une à une. Ni l'hôtel, ni l'auberge, ni même la prison ne le reçoivent. Il est rejeté, chassé, banni. Il finit par échouer à bout de force devant la porte de l'évêque de la ville. Cet homme d'église, bien que n'ignorant rien de son passé, reçoit le vagabond avec bienveillance. Il l'invite par ces mots compatissants. « Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif. Soyez le bienvenu. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, avant que vous me le disiez, vous en avez un que je savais. » L'homme ouvre des yeux étonnés. « Vrai? Vous saviez comment je m'appelle ?»« Oui, » répond l'évêque. « Vous vous appelez mon frère. » Dans l'Église, nos paroisses et nos collèges ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Qui entre dans nos églises doit pouvoir s'y sentir chez lui. La responsabilité d'accueillir tout le monde revêt une importance grandissante. Le monde dans lequel nous vivons traverse une période de profond bouleversement. En raison de la disponibilité accrue des moyens de transport et de communication, et de la mondialisation des économies, la Terre est en train de devenir une sorte d'immense village où peuples et nations se rencontrent, se côtoient et se brassent comme jamais auparavant. Ces changements planétaires servent les desseins du Dieu Tout-Puissant. Le rassemblement de ses élus des quatre coins de la Terre ne s'opère pas seulement par l'envoi de missionnaires dans des pays lointains. Il se produit aussi dans nos villes et dans nos quartiers, par la venue chez nous de personnes issues d'autres régions. Beaucoup d'entre elles, sans le savoir, sont conduites par le Seigneur vers un endroit où elles pourront entendre l'Évangile et rejoindre le troupeau. Il y a de fortes chances pour que la prochaine personne convertie à l'Évangile dans votre paroisse ne vienne pas de votre cercle habituel. Vous la remarquerez à son apparence, à sa langue, à son habillement ou à la couleur de sa peau. Cette personne aura grandi dans une autre religion, avec d'autres références et un autre mode de vie. L'intégration au sein de l'Église est une responsabilité importante de la prêtrise. Les collèges de prêtrise d'Aaron et de Melchizedek agissent de concert avec les organisations auxiliaires sous la direction de l'évêque pour s'assurer que chacun est accueilli avec amour et bienveillance. Les instructeurs au foyer et les instructrices visiteuses veille à ce que personne ne soit oublié ou laissé seul. Nous devons tous travailler pour édifier l'unité spirituelle au sein de nos paroisses et de nos branches. Un exemple de parfaite unité a existé parmi le peuple de Dieu après la visite du Christ en Amérique. Il est dit qu'il n'y avait pas de lamanite, ni aucune sorte d'ite, mais ils étaient un, enfants du Christ et héritiers du royaume de Dieu. L'unité ne consiste pas à ignorer ou à écarter les membres qui paraissent différents ou plus faibles, pour se retrouver entre gens qui se ressemblent. Bien au contraire, l'unité se gagne à force d'accueillir et de servir ceux-là même qui sont nouveaux ou qui ont des besoins particuliers. Ces membres sont une bénédiction pour l'Église et nous procurent des occasions de servir notre prochain et par là même de purifier notre cœur. Alors, mes frères, il est de votre devoir d'aller vers toute personne qui arrive à la porte de nos églises. Accueillez-la avec reconnaissance et sans préjugés. Si un inconnu se présente dans l'une de nos réunions, saluez-le chaleureusement et invitez-le à s'asseoir avec vous. S'il vous plaît, faites le premier pas pour l'aider à se sentir intégré et aimé, plutôt que d'attendre qu'il fasse un pas vers vous. Après avoir accueilli cette personne, réfléchissez à la façon dont vous pouvez continuer à vous occuper d'elle. Je me souviens d'une paroisse où, suite au baptême de deux sœurs malentendantes, deux merveilleuses sœurs de la Société de Secours ont décidé d'apprendre la langue des signes pour mieux pouvoir communiquer avec elles. Quel magnifique exemple d'amour pour nos frères et sœurs dans l'Évangile. Je témoigne que nul n'est étranger aux yeux de notre Père Céleste. Toute âme est précieuse à ses yeux. Avec Pierre, je rends témoignage que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Je prie pour que le Seigneur puisse dire à chacun d'entre nous, quand il rassemblera ses brebis au dernier jour, « J'étais étranger et vous m'avez recueilli ». Nous lui répondrons alors, « Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ?» Et il nous répondra, « Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Au nom de Jésus-Christ, amen.
Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. In the name of Jesus Christ, amen.
When I was sustained as a general authority last April,
lorsque j'étais soutenu comme autorité générale en avril dernier, j'étais président de mission en Inde. J'ai pu observer personnellement ce qu'un ancien président de mission m'avait dit. Les missionnaires de l'Église sont tout simplement formidables. L'un des nombreux missionnaires remarquables avec qui Sir Funk et moi avons œuvré était un Népalais du nom de Pokhrel. Il était membre de l'Église depuis seulement 2 ans quand il était appelé comme missionnaire à Bangalore, en Inde, mission de langue anglaise. Il vous dirait qu'il n'était pas bien préparé. Cela pouvait se comprendre. Il n'avait jamais vu de missionnaire avant d'en être un lui-même. Il ne lisait pas suffisamment bien l'anglais pour comprendre les instructions qui accompagnaient sa lettre d'appel. Quand il s'est présenté au centre de formation des missionnaires, au lieu d'emporter des pantalons habillés, des chemises blanches et des cravates, il avait pris, selon ses termes, 5 paires de jeans, quelques t-shirts et beaucoup de gel pour cheveux. Il a dit que pendant les premières semaines, même après avoir obtenu des vêtements appropriés, il ne se passait pas un jour sans qu'il ne se sente pas à la hauteur. Voici comment il décrit cette période de sa mission, je cite, « Non seulement l'anglais était difficile, mais le travail l'était tout autant. En plus de tout cela, j'avais faim, j'étais fatigué et j'avais le mal du pays. Même si les circonstances étaient difficiles, j'étais déterminé. Je me sentais faible et pas du tout à la hauteur. Dans ces moments-là, je demande à mon Père Céleste de m'aider. Immanquablement, chaque fois que je priais, j'étais réconforté. » Fin de citation. L'œuvre missionnaire était quelque chose de nouveau et de difficile pour Frère Pokhrel. Mais il a servi avec une grande foi et une grande fidélité, cherchant à comprendre et à suivre ce qu'il apprenait dans les Écritures, d'en prêcher mon évangile et de ses dirigeants missionnaires. Il est devenu un grand instructeur de l'évangile, en anglais, et un excellent dirigeant. Après sa mission, il est resté quelque temps au Népal avant de retourner en Inde pour poursuivre ses études. Depuis janvier, il est président de branche à New Delhi. Grâce à la progression réelle qu'il a connue en mission, il continue de contribuer à celle de l'Église en Inde. Comment un jeune homme qui n'avait jamais vu de missionnaire en est-il devenu un doté d'une telle force spirituelle? Comment, en tant que missionnaire, allez-vous recevoir la force spirituelle d'ouvrir la porte, l'intérêt et le cœur des personnes qui vivent là où vous servirez? Comme toujours, la réponse se trouve dans les Écritures et les paroles des prophètes et des apôtres. Quand l'Évangile a été prêché pour la première fois en Angleterre en juillet 1837, le Seigneur a révélé « Et de plus, je te dis que quiconque tu enverra en mon nom par la voix de tes frères, les 12, dûment recommandé, autorisé par toi, aura le pouvoir d'ouvrir la porte de mon royaume à toute nation où tu l'enverras. Où que vous soyez, quelle que soit la mission où vous êtes affecté, sachez qu'un membre des 12 a dûment recommandé cette affectation et que vous êtes appelé par le prophète du Seigneur. Vous êtes appelé par prophétie et par l'imposition des mains. » Ensuite, le Seigneur a donné les conditions pour que cette promesse se réalise. Il a dit, « S'il, ce qui signifie que la promesse se réalisera si, si il, signifiant les missionnaires qui sont envoyés, s'humilie devant moi, demeure deuxièmement dans ma parole, et troisièmement, écoute la voix de mon esprit. » Les promesses du Seigneur sont claires. Pour avoir la force spirituelle nécessaire pour ouvrir la porte du royaume de Dieu dans le pays où vous êtes envoyé, vous devez être humble, obéissant et avoir la capacité d'entendre et de suivre l'Esprit. Ces trois qualités sont étroitement liées. Si vous êtes humble, vous chercherez à être obéissant. Si vous êtes obéissant, vous ressentirez l'Esprit. L'Esprit est essentiel, car, comme l'a enseigné Ezra Benson, sans l'Esprit, vous ne réussirez jamais, quels que soient vos talents et vos capacités. En tant que président de mission, j'ai occasionnellement eu des entretiens avec des missionnaires qui avaient des difficultés, parce qu'ils n'étaient pas encore complètement purs. Ils vivaient en dessous de leur potentiel spirituel. Ils avaient beau travailler dur ou faire beaucoup de bien, ils étaient incapables de se sentir en paix et de jouir pleinement de la compagnie du Saint-Esprit, tant qu'ils ne s'étaient pas humiliés, complètement repentis et qu'ils n'avaient pas goûté à la miséricorde et à la grâce du Sauveur. Le Seigneur commande à ses serviteurs d'être humbles, parce que le processus de guérison spirituelle commence par un cœur brisé. Réfléchissez au bien qui découle de ce qui est brisé. On brise la terre pour semer le blé. On broie le blé pour faire le pain. On rompt le pain pour qu'il devienne les emblèmes de la Sainte Cène. Lorsqu'une personne repentante prend la Sainte Cène, le cœur brisé et l'esprit contrit, elle guérit. Quand nous nous repentons et que nous guérissons par l'expiation de Jésus-Christ, nous avons bien davantage à offrir au Sauveur lorsque nous le servons. Oui, venez à lui et offrez-lui votre âme tout entière en offrande. Si vous portez le poids du péché et avez besoin de vous repentir, faites-le tout de suite. Quand le Sauveur guérissait les affligés, il leur demandait souvent de se lever. Les Écritures rapportent qu'il le faisait immédiatement. Pour être guéri de vos afflictions spirituelles, acceptez son invitation à vous lever. Sans plus attendre, parlez à votre évêque, président de branche ou président de mission, et commencez dès maintenant le processus du repentir. Le pouvoir guérisseur de l'expiation apportera la paix à votre âme et vous permettra de ressentir le Saint-Esprit. Le sacrifice du Sauveur est infini, mais nos péchés, aussi nombreux et graves soient-ils, peuvent être dénombrés et confessés, abandonnés et pardonnés. Et comme sa joie est grande pour l'âme qui se repent. Cette promesse des doctrines et alliances est puissante. Que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors, ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. En menant une vie vertueuse, vous ressentirez une confiance paisible concernant votre situation devant Dieu, et le pouvoir de l'Esprit sera avec vous. Il se peut que de nouveaux membres de l'Église ou des personnes qui sont récemment redevenues pratiquantes se disent « Je suis digne maintenant, j'ai le désir de servir, mais je ne sais pas si j'en sais assez. » En avril, le président Monson nous a enseigné, je cite, « La connaissance de la vérité et la réponse à nos plus grandes questions nous sont données lorsque nous sommes obéissants au commandement de Dieu. » Fin de citation. Comme c'est rassurant de savoir que par l'obéissance, nous obtenons la connaissance. D'autres peuvent avoir l'impression d'avoir peu de talent ou d'expérience à offrir. Si telle est votre inquiétude, souvenez-vous d'expérience de Frère Pockrell. Préparez-vous de votre mieux et sachez que notre Père Céleste magnifiera vos efforts humbles et obéissants. Richard G. Scott a donné ce conseil encourageant. Je cite, « Lorsque nous respectons les commandements du Seigneur et servons ses enfants de façon désintéressée, la conséquence naturelle est le pouvoir qui nous vient de Dieu, le pouvoir de faire plus que nous ne pouvons faire par nous-mêmes. Nos idées, nos talents, nos capacités sont développées parce que nous recevons de la force et du pouvoir du Seigneur. » Fin de citation. Si vous placez votre confiance dans le Seigneur et dans sa bonté, le Dieu Tout-Puissant bénira ses enfants à travers vous. Frère Hollings du Nevada a appris cela tôt dans sa mission. Le lendemain de son arrivée en Inde, il nous a accompagnés, Sir Funk et moi, à Rajamundry, son premier lieu d'affectation. Dans l'après-midi, Frère Hollings et Frère Ganaparam sont allés rendre visite à un membre de l'Église et à sa mère. La mère voulait savoir ce qu'était l'Église parce qu'elle avait vu les bénédictions de l'Évangile dans la vie de sa fille. Sir Funk les accompagnait pour offrir un soutien. Comme la leçon allait être donnée en anglais et que la mère ne parlait que le Telugu, un frère de la branche était là pour interpréter. Pour son premier rendez-vous d'enseignement, Frère Hollings avait pour tâche d'enseigner la première vision, en reprenant les paroles du prophète Joseph. À ce stade de la leçon, il s'est tourné vers Sir Funk et, sachant que ses paroles allaient être interprétées, a demandé « Dois-je la réciter mot à mot ?» Elle a répondu « Dites-la mot à mot, afin que l'Esprit puisse témoigner de vos paroles. » Quand le nouveau missionnaire a enseigné avec sincérité la première vision, en utilisant les mots du prophète, le visage de cette chère sœur a changé. Des larmes se sont mises à couler. Quand Frère Hollings a terminé de donner ce glorieux message, et avant que ses paroles ne soient traduites, elle a demandé, au milieu des larmes, dans sa langue maternelle, « Puis-je me faire baptiser ?» Et instruirez-vous, mon fils, mes jeunes compagnons de service, des portes et des cœurs s'ouvrent tous les jours au message de l'Évangile, message qui apporte espoir, paix et joie aux enfants de Dieu dans le monde entier. Si vous êtes humble, obéissant et écoutez la voix de l'Esprit, vous trouverez un grand bonheur dans le service missionnaire. C'est une époque merveilleuse pour être missionnaire. Une époque où le Seigneur a son œuvre. Je rends témoignage de notre Sauveur et de son commandement divin d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Cette Église est la sienne. Il la dirige par l'intermédiaire de prophètes et d'apôtres vivants. Pendant l'heure qui va suivre, la première présidence va nous instruire. Puissions-nous être prompts à observer, comme l'était Mormon, afin que lorsque l'appel viendra, nous soyons dignes et capables de déclarer par la force de l'Esprit, « Voici, je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. »
The choir and congregation.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter. Fais ton devoir, voici la lumière. Après ce chant, Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, nous adressera la parole. Puis j'aurai l'honneur de vous faire un discours.
What a beautiful sight that is, to be
among you priesthood holders. C'est une magnifique vision d'être parmi vous, jeunes détenteurs de la prêtrise. C'est un honneur et un privilège d'être parmi vous. Quand j'étais jeune, tomber et se relever semblait être un seul et même mouvement. Cependant, au fil des années, j'en suis arrivé à la conclusion désagréable que les lois de la physique ont changé et pas à mon avantage. Il n'y a pas longtemps, je skiais avec mon petit-fils âgé de 12 ans. Nous nous amusions bien ensemble lorsque j'ai heurté un endroit verglacé et me suis retrouvé à faire un magnifique vol plané sur une pente raide. J'ai essayé tous les trucs pour me relever, mais je n'ai pas pu. J'étais tombé et je ne pouvais pas me relever. Je me sentais bien physiquement, mais mon ego en avait pris un coup. Alors je me suis assuré que mon casque et mes lunettes étaient en place, car je préférais de beaucoup que les autres skieurs ne me reconnaissent pas. Je pouvais m'imaginer assis, désemparé, tandis qu'ils skiaient élégamment et me lançaient en passant un joyeux « Hello, Président Orndorff ». Je commençais à me demander ce qu'il fallait faire pour me sauver lorsque mon petit-fils est arrivé à côté de moi. Je lui ai dit ce qui s'était passé, mais il ne semblait pas très intéressé par mes explications sur les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas me relever. Il m'a regardé dans les yeux, m'a tendu la main, a pris la mienne, et d'un ton ferme a dit « Opa, tu peux le faire maintenant ?» Instantanément, j'étais debout. Je n'en suis toujours pas revenu. Ce qui avait semblé impossible quelques instants avant était devenu immédiatement réalité parce que un garçon de 12 ans m'avait tendu la main et m'avait dit « Tu peux le faire maintenant ». Cela m'avait insufflé de la confiance, de l'enthousiasme et de la force. Mes frères, il peut y avoir des moments dans la vie où se relever et continuer peut sembler au-delà de nos capacités. Ce jour-là, sur une pente neigeuse, j'ai appris quelque chose. Même lorsque nous pensons que nous ne pouvons pas nous relever, il existe encore de l'espoir. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un nous regarde dans les yeux, nous prenne la main et nous dise « Tu peux le faire maintenant ». On peut penser que la femme est plus susceptible que l'homme d'éprouver des sentiments d'insuffisance et d'échec, que cela l'affecte plus que lui. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Les hommes ressentent la culpabilité, la dépression et l'échec. Nous pourrions faire comme si ces sentiments ne nous touchaient pas, mais c'est faux. Nous pouvons nous sentir tellement écrasés par nos échecs et nos insuffisances que nous commençons à penser que nous ne pourrons jamais réussir. Nous pourrions même nous dire que si nous sommes déjà tombés, c'est que c'est là notre destin. Un écrivain a dit à juste titre, nous nous débattons comme des barques contre le courant, sans cesse repoussées vers le passé. J'ai vu des hommes pleins de capacité et de grâce désengagés de l'œuvre exigeante qu'est l'édification du royaume de Dieu parce qu'ils avaient échoué une ou deux fois. C'étaient des hommes qui promettaient, qui auraient pu être des détenteurs de la prêtrise et des serviteurs de Dieu exceptionnels. Mais parce qu'ils ont trébuché et se sont découragés, ils ont abandonné leur engagement dans la prêtrise et ont poursuivi des entreprises plus faciles, mais moins dignes. Ainsi, ils continuent ne vivant que l'ombre de la vie qu'ils auraient pu connaître, sans jamais atteindre le potentiel qui est leur droit de naissance. Comme se lamentait le poète, ils font partie de ces âmes malheureuses qui meurent avec la majeure partie de leur musique encore en eux. Personne n'aime échouer. Et nous, en particulier, n'aimons pas cela. Quand les autres, surtout nos êtres chers, nous voient échouer. Nous voulons tous être respectés et estimés. Nous voulons être des champions. Mais nous, mortels, ne devenons pas champions sans effort, ni discipline, ni sans faire d'erreur. Frères, notre destinée n'est pas déterminée par le nombre de fois où nous trébuchons, mais par le nombre de fois où nous nous relevons, secouons la poussière et repartons de l'avant. Nous savons que cette condition mortelle est un test. Mais comme notre Père Céleste nous aime d'un amour parfait, il nous montre où trouver les réponses. Il nous a donné la carte qui nous permet de nous orienter sur le territoire incertain et d'aborder les épreuves inattendues que chacun de nous rencontre. Les paroles des prophètes font partie de cette carte. Lorsque nous nous écartons, lorsque nous chutons ou nous éloignons du chemin de notre Père céleste, les paroles des prophètes nous disent comment nous relever et reprendre la piste. De tous les principes enseignés par les prophètes au cours des siècles, il en est un qui a été souligné maintes et maintes fois. C'est le message plein d'espoir et de réconfort que l'humanité peut se repentir, changer de voie et revenir sur le vrai chemin du disciple. Cela ne signifie pas que nous devons être à l'aise dans nos faiblesses, nos fautes ou nos péchés. Non. Car il y a une différence importante entre la tristesse pour le péché qui conduit au repentir et la tristesse qui conduit au désespoir. L'apôtre Paul déclare que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse, selon Dieu, inspire au changement et à l'espérance grâce à l'expiation de Jésus-Christ. La tristesse du monde nous abaisse, annihile l'espoir et nous persuade de céder à d'autres tentations. La tristesse, selon Dieu, conduit à la conversion et au changement de cœur. Elle nous amène à haïr le péché et à aimer le bien. Elle nous encourage à nous relever et à marcher dans la lumière de l'amour du Christ. Le véritable repentir est une affaire de transformation, pas de torture ou de tourment. Oui, il est exact que les regrets sincères et les vrais remords pour avoir désobéi sont souvent douloureux et des étapes importantes dans le processus sacré du repentir. Mais lorsqu'elle conduit au dégoût de nous-mêmes ou nous empêche de nous relever, la culpabilité est un obstacle, non un encouragement à notre repentir. Frères, il y a une meilleure façon de s'y prendre. Levons-nous et devenons des hommes de Dieu. Nous avons un champion, un sauveur, qui a traversé pour nous la vallée de l'ombre de la mort. Il s'est donné en rançon pour nos péchés. Nul n'a montré de plus grand amour que Jésus-Christ, l'agneau sans tache, qui volontairement s'est allongé sur l'autel du sacrifice et a payé le prix pour nos péchés jusqu'au dernier cadran. Il a pris sur lui nos souffrances, il a pris nos fardeaux, notre culpabilité sur ses épaules. Mes chers amis, si nous décidons d'aller à lui, de prendre son nom sur nous et de marcher hardiment sur le chemin des disciples, il nous est promis que, grâce à l'expiation, nous aurons non seulement le bonheur et la paix dans ce monde, mais aussi la vie éternelle dans le monde à venir. Lorsque nous commettons des fautes, que nous péchons et chutons, réfléchissons à ce que signifie le véritable repentir. Cela signifie tourner son cœur et sa volonté vers Dieu et renoncer au péché. Le repentir sincère apporte l'assurance céleste que maintenant nous pouvons le faire. Une des méthodes de l'adversaire pour nous empêcher de progresser consiste à nous embrouiller au point que nous ne sachions plus qui nous sommes réellement et ce que nous désirons vraiment. Nous voulons passer du temps avec nos enfants, mais nous voulons aussi nous adonner à nos passe-temps masculins favoris.
We want to lose weight.
Nous voulons maigrir. Mais nous voulons aussi profiter des aliments dont nous avons envie. Nous voulons devenir semblables au Christ, mais nous voulons aussi dire son fait au type qui nous a coupé la route dans la circulation. Le but de Satan est de nous tenter d'échanger les perles sans prix du bonheur véritable et d'une valeur éternelle contre un faux bijou en plastique qui n'est qu'une illusion et une contrefaçon du véritable bonheur et de la vraie joie. Une autre méthode utilisée par l'adversaire pour nous décourager de nous relever est de nous faire voir les commandements comme des choses qui nous sont imposées. Je suppose qu'il est dans la nature humaine de résister à tout ce qui ne semble pas de prime abord être son idée. Si nous considérons que se nourrir sainement et faire de l'exercice sont des choses que seul notre médecin attend de nous, nous échouerons probablement. Si nous considérons ces choix en fonction de qui nous sommes et de ce que nous voulons devenir, nous avons plus de chances de maintenir le cap et de réussir. Si nous considérons l'enseignement au foyer uniquement comme les objectifs du président pieux, nous risquons d'être moins motivés pour les faire. Si nous les considérons comme notre objectif, quelque chose que nous désirons faire pour ressembler davantage au Christ et servir autrui, non seulement nous remplirons nos engagements, mais nous les accomplirons de manière à vraiment faire du bien aux familles que nous visitons et à la nôtre aussi par la même occasion. Très souvent, c'est nous qui sommes aidés par des amis ou des membres de notre famille. Mais si nous regardons autour de nous avec des yeux attentifs et la motivation d'un cœur aimant, nous reconnaîtrons les occasions que le Seigneur nous présente d'aider les autres à se relever et avancer vers leur vrai potentiel. L'Écriture suggère, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est une grande source de pouvoir spirituel que de vivre avec intégrité et justice et de garder les yeux fixés sur la place que nous voulons obtenir dans les éternités. Mais si nous ne voyons cette destination qu'avec les yeux seuls de la foi, cela nous aidera à garder le cap. Si notre attention est principalement centrée sur nos réussites ou nos échecs quotidiens, nous pouvons nous perdre en chemin, errer et chuter. Si nous gardons les yeux fixés sur des objectifs supérieurs, cela nous aidera à être de meilleurs fils et frères, des pères plus gentils et des maris plus aimants. Même les personnes dont le cœur est tourné vers des objectifs divins peuvent trébucher, mais elles ne seront pas vaincues. Elles ont confiance dans les promesses de Dieu. Elles se relèveront, animées d'un brillant espoir en un Dieu juste et par la vision inspirante d'un avenir glorieux. Elles savent qu'elles peuvent le faire maintenant. Chacun, jeune ou moins jeune, sait par expérience personnelle ce que c'est que chuter. Chuter, c'est ce que font les mortels. Mais tant que nous sommes disposés à nous relever et à continuer sur le chemin qui mène aux objectifs spirituels que Dieu nous a fixés, nous pouvons tirer une leçon de l'échec avec, pour résultat, que nous deviendrons meilleurs et plus heureux. Mes frères, il y aura des moments où vous penserez ne pas pouvoir tenir ou continuer. S'il vous plaît, ayez confiance dans le Seigneur et en son amour. Avec la foi au Seigneur Jésus-Christ et le pouvoir et l'espérance de l'Évangile rétabli, vous pourrez toujours marcher la tête droite et continuer. Frères, nous vous aimons. Nous prions pour vous. Vous devriez entendre le président Monson prier pour vous. Que vous soyez un jeune père, un détenteur âgé de la prêtrise ou un diacre nouvellement ordonné, nous nous soucions de vous. Le Seigneur se soucie de vous. Nous sommes conscients que votre chemin sera parfois difficile, mais je vous fais cette promesse au nom du Seigneur. Relevez-vous et suivez les pas de notre Rédempteur et Sauveur, et un jour, vous regarderez en arrière et serez remplis de gratitude éternelle pour avoir choisi de faire confiance à l'expiation et à son pouvoir de vous élever et de vous renforcer. Mes chers amis, mes chers frères, quel que soit le nombre de fois où vous avez dérapé ou chuté, levez-vous. Votre destinée est glorieuse. lever la tête et marcher dans la lumière de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus capable que vous ne pouvez l'imaginer. Vous pouvez le faire maintenant. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.
All of us are blessed with responsibility for others.
Nous sommes tous responsables d'autrui en tant que détenteurs de la prêtrise du Seigneur. Détenteurs de la prêtrise, c'est être responsable devant Dieu pour la vie de ses enfants. Ceci est une vérité, c'est merveilleux. Et à quelques fois, cela peut être très, très difficile à gérer. Il y a de nombreux frères qui sont ici ce soir et qui savent de quoi je parle. Cela est arrivé à beaucoup d'entre vous. Les détails peuvent varier, mais la situation est la même. Un elder que vous ne connaissez pas bien a demandé votre aide. Il venait de découvrir qu'il devait déménager sa femme et son petit bébé ce jour-là de l'appartement où il vivait pour aller dans un autre tout près. Sa femme et lui avaient déjà demandé à un ami s'il pouvait lui emprunter un camion pour la journée, pour déménager leurs meubles et leurs effets personnels. L'ami leur avait prêté le camion. Le jeune père avait commencé à charger tous leurs biens dans le camion. Mais dans les premières minutes, il s'était fait mal au dos. L'ami qui lui avait prêté le camion était trop occupé pour l'aider. Le jeune père était désespéré. Il a pensé à vous, son président de collège des anciens. Au moment où il a demandé de l'aide, c'était le début de l'après-midi. Ce jour-là, il y aurait une réunion de l'église en fin d'après-midi. Vous aviez déjà promis à votre femme de l'aider pour du travail dans la maison ce jour-là. Vos enfants, vous avez demandé de faire quelque chose avec eux, mais vous n'en aviez pas encore eu le temps. Vous saviez aussi que les membres de votre collège, surtout les plus fidèles, ceux que vous appelez habituellement à l'aide, étaient vraisemblablement aussi pris que vous. Le Seigneur savait que vous connaîtriez de tels moments lorsqu'il vous a appelé à ce poste. Aussi vous a-t-il donné une histoire pour vous encourager. C'est une parabole pour les détenteurs de la prêtrise débordée. Nous l'appelons parfois l'histoire du bon samaritain. Mais c'est véritablement l'histoire qui convient pour un grand détenteur de la prêtrise en ces derniers jours surchargés. L'histoire est juste, ce qu'il faut aux serviteurs de la prêtrise qui croulent sous les tâches. Rappelez-vous simplement que vous êtes le Samaritain et non le sacrificateur ou le Lévite qui sont passés près du blessé sans s'arrêter. Il se peut que vous n'ayez pas pensé à cette histoire quand vous vous êtes trouvé face à de telles difficultés. Mais je vous prie d'y penser lorsque de tels moments arriveront, et ils arriveront sûrement. On ne nous dit pas dans les Écritures pourquoi le Samaritain circulait sur la route qui mène de Jérusalem à Jéricho. Il est peu probable qu'il se promenait tout seul, puisqu'il devait savoir que des voleurs guettaient les imprudents. Il avait une bonne raison de se déplacer. Et comme de coutume, il avait avec lui une bête de somme, ainsi que de l'huile et du vin. Selon les paroles du Seigneur, quand il vit le blessé, le Samaritain s'arrêta, parce qu'il était ému de compassion. En plus de simplement ressentir de la compassion, il a agi. Rappelez-vous toujours les précisions du récit. Je cite, « Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Fin de citation. Vous et les détenteurs de la prêtrise que vous êtes appelés à diriger pouvez être assurés d'au moins trois choses. Premièrement, si vous le demandez, le Seigneur vous le donnera, vous fera éprouver les sentiments de compassion qu'il éprouve envers les personnes dans le besoin. Deuxièmement, il suscitera d'autres personnes, comme le tenancier de l'hôtellerie, pour se joindre à vous dans votre service. Et troisièmement, le Seigneur, comme le bon Samaritain, fera plus que récompenser tous les gens qui viendront apporter de l'aide aux personnes dans le besoin. Vous, président de collège, avez vraisemblablement agi plus d'une fois en vous appuyant sur cette assurance. Vous avez appelé à l'aide d'autres détenteurs de la prêtrise du Seigneur, sachant toute confiance qu'ils répondraient avec compassion. Vous n'avez pas craint de faire appel à ceux qui ont répondu le plus souvent dans le passé, parce que vous saviez qu'ils éprouvent facilement de la compassion. Vous le leur avez demandé en sachant que dans le passé, ils ont ressenti la générosité du Seigneur lorsqu'ils ont choisi d'aider. Vous avez demandé à certains, déjà lourdement chargés, en sachant que plus le sacrifice est grand, plus la compensation qu'ils recevront du Seigneur sera forte. Les personnes qui ont aidé dans le passé ont ressenti la gratitude débordante du Sauveur. Il se peut que vous ayez été inspiré de ne pas demander à quelqu'un d'aider à charger et puis à décharger ce camion. En tant que dirigeant, vous connaissez bien les membres de votre collège et leur famille. Le Seigneur les connaît parfaitement. Il connaît celui dont la femme était sur le point de craquer parce que son mari ne pouvait trouver du temps pour faire ce qu'il fallait pour répondre à ses besoins. Il connaît celui dont les enfants seraient bénis en voyant leur père partir une fois de plus aider autrui, ou si les enfants ont besoin de sentir que leur père se soucie suffisamment d'eux pour passer du temps avec eux ce jour-là. Mais il sait aussi qui a besoin de l'invitation à servir, mais pourrait ne pas sembler être un candidat probable ou bien disposé. Vous ne pouvez pas connaître parfaitement bien tous les membres de votre collège, mais Dieu les connaît. Aussi, comme vous l'avez fait de nombreuses fois, vous avez prié pour savoir à qui demander d'aider à rendre service. Le Seigneur sait qui sera béni si on lui demande de rendre service. Et quelle famille sera bénie si on ne le lui demande pas? C'est la révélation que vous pouvez vous attendre à recevoir quand vous dirigez dans la prêtrise. J'ai vu cela se produire quand j'étais jeune. J'étais premier assistant dans un collège de prêtres. Un jour, l'évêque m'a appelé chez moi. Il m'a dit qu'il voulait que j'aille avec lui chez une veuve très nécessiteuse. Il m'a dit qu'il avait besoin de moi. Pendant que j'attendais qu'il passe me prendre, j'étais troublé. Je savais que l'évêque avait des conseillers expérimentés et sages. L'un d'eux était un juge bien connu. L'autre dirigeait une grande société et est devenu plus tard autorité générale. L'évêque lui-même est devenu un jour autorité générale. Pourquoi l'évêque, disait-il, un prêtre inexpérimenté, j'ai besoin de toi? Maintenant, je sais mieux ce qu'il aurait pu me dire. Le Seigneur a besoin de te bénir. Chez la veuve, je l'ai entendu dire à la femme qu'elle n'aurait aucune aide de l'Église tant qu'elle n'aurait pas rempli le relevé de budget qu'il lui avait laissé précédemment. Sur le chemin du retour, il a gloussé devant ma surprise et a dit, « Al, lorsqu'elle maîtrisera ses dépenses, elle pourra aider les autres. » À une autre occasion, mon évêque m'a emmené chez des parents alcooliques qui ont envoyé leurs deux fillettes effrayées nous accueillir à la porte. Après qu'il a eu parlé avec les deux petites filles, nous sommes repartis et il m'a dit, « Nous ne pouvons pas encore changer leur vie tragique, mais elles peuvent sentir que le Seigneur les aime. » Fin de citation. Un autre soir, il m'a emmené chez un homme qui n'était pas venu à l'église depuis des années. L'évêque lui a dit combien il l'appréciait, à quel point la paroisse avait besoin de lui. Cela n'a pas eu l'air de faire beaucoup d'effet sur l'homme.
The bishop's kindness didn't seem to have much effect on the man. But that time,
cette fois, et chaque fois que l'évêque m'a emmené avec lui, cela a eu un grand effet sur moi. Je n'ai aucun moyen de savoir si l'évêque avait prié pour savoir à quel prêtre ses visites feraient du bien. Il aurait pu emmener de nombreuses fois d'autres prêtres avec lui. Mais le Seigneur savait qu'un jour, je serais évêque et que j'inviterais les personnes dont la foi se serait refroidie à revenir se réchauffer à la chaleur de l'Évangile. Le Seigneur savait qu'un jour je serais responsable, en tant que détenteur de la prêtrise, de centaines, voire de milliers d'enfants de notre Père Céleste qui auraient des besoins temporels désespérés. Jeunes gens, vous ne pouvez pas savoir pour quels actes de service dans la prêtrise le Seigneur est en train de vous préparer. Mais le plus grand défi que chaque détenteur de la prêtrise doit relever est d'apporter de l'aide spirituelle. Nous avons tous cette responsabilité. Elle nous incombe en tant que membre d'un collège. Elle nous incombe en tant que membre d'une famille. Si la foi d'un membre de votre collège ou de votre famille est attaquée par Satan, vous allez éprouver de la compassion. Tout comme le service et la miséricorde manifestés par le Samaritain, qui a rendu service avec miséricorde, vous servirez vous aussi en appliquant un baume guérisseur sur ses blessures au moment où il en aura besoin. Lors de votre service, comme missionnaire à plein temps, vous irez vers des milliers de personnes en grand besoin spirituel. Beaucoup, jusqu'à ce que vous les instruisiez, ne sauront même pas qu'ils ont des blessures spirituelles qui, laissées sans soin, apporteront un malheur sans fin. Vous irez en mission pour le Seigneur, pour les sauver. Seul le Seigneur peut soigner leurs blessures spirituelles s'ils acceptent les ordonnances qui conduisent à la vie éternelle. Comme membre d'un collège, comme instructeur au foyer, comme missionnaire, vous ne pouvez les aider les gens à réparer les dommages spirituels que si votre foi est solide. Cela implique bien plus que de lire régulièrement les Écritures et de méditer à leur sujet. La prière sur le moment même et un coup d'œil rapide sur les Écritures ne sont pas une préparation suffisante. L'assurance quant à ce dont vous aurez besoin vient de l'exhortation faite à la section 84 des Doctrines et Alliances. Ne vous souciez pas d'avance de ce que vous direz, mais amassez continuellement dans votre esprit les paroles de vie. Et la part qui sera attribuée à tout homme vous sera donnée à l'heure même. Fin de citation. Nous n'avons droit à cette promesse que si nous amassons les paroles de vie et le faisons continuellement. La partie de cette écriture que je chéris est pour moi une question de ressenti des paroles. Par exemple, quand je suis parti essayer d'aider quelqu'un dont la foi chancelait concernant l'appel divin de Joseph Smith, le prophète, des sentiments me sont revenus. Ce ne sont pas seulement les paroles du livre de Mormon. C'est un sentiment m'assurant que c'est la vérité que j'éprouve chaque fois que je lis ne serait-ce que quelques lignes du livre de Mormon. Je ne peux promettre que ce sentiment sera donné à toutes les personnes envahies par le doute concernant le prophète Joseph ou le livre de Mormon. Mais je sais que Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Je sais que le livre de Mormon est la parole de Dieu parce que je l'ai étudié dans mon cœur. Je sais par expérience que vous pouvez être assuré de la vérité par l'Esprit parce qu'il me l'a manifesté. Vous et moi devons avoir cette assurance avant que le Seigneur ne nous place sur le chemin d'un voyageur que nous aimons, qui a été blessé par les ennemis de la vérité. Il y a une autre préparation que nous devons faire. Il est dans la nature de l'homme de s'endurcir devant la douleur d'autrui. C'est une des raisons pour lesquelles le Sauveur s'est tant appliqué à nous parler de son expiation, des douleurs et des chagrins de tous les enfants de notre Père Céleste, qu'il allait prendre sur lui, afin qu'il sache comment les secourir. Même les meilleurs des détenteurs de la prêtrise de notre Père Céleste ici-bas n'arrivent pas facilement à ce niveau de compassion. Notre tendance humaine et de nous montrer impatients avec la personne qui ne peut voir la vérité qui, pour nous, est si limpide. Nous devons être prudents pour que notre impatience ne soit pas interprétée comme une condamnation ou un rejet. Il y a une écriture qui peut nous aider, nous guider dans nos préparatifs pour porter secours pour le Seigneur en tant que ses serviteurs de la prêtrise. Elle contient un don qui nous sera nécessaire pour notre voyage, où que le Seigneur nous envoie. Le bon Samaritain avait ce don. Nous en aurons besoin et le Seigneur nous a dit comment le trouver. Citation. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Car la charité ne périt jamais. C'est pourquoi, attachez-vous à la charité qui est ce qu'il y a de plus grand, car tout succombera. Mais la charité est l'amour pur du Christ et elle subsiste à jamais, et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu. Afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Je prie pour que nous nous préparions à rendre tout service de la prêtrise que le Seigneur est susceptible de nous demander lors de notre voyage ici-bas, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Frères, nous vous remercions de votre présence ce soir. Nous remercions également le chœur de la prêtrise d'Aaron pour la musique inspirante qu'il a interprétée et toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de cette réunion. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète Thomas Monson. Après le discours du président Monson, le chœur chantera « Dieu de nos pères ». The benediction will then be offered by Elder Walter F. Gonzalez. Ensuite, Walter F. Gonzalez des 70 fera la prière de clôture.
Tonight, in the conference center in Salt Lake City.
Ce soir, ce centre de conférence au Lake City. Sont rassemblés tous ceux qui sont détenteurs de la prêtrise de Dieu. Véritablement, vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, comme l'a déclaré l'apôtre Pierre. C'est pour moi un honneur de vous adresser la parole. Quand j'étais jeune, notre famille allait chaque été à Provo Canyon, à environ 70 km au sud, un peu à l'est de Salt Lake City, où nous restions dans notre chalet pendant plusieurs semaines. Nous, les garçons, nous étions toujours désireux d'aller pêcher dans le cours d'eau ou d'aller nager dans les trous d'eau, où nous employions à ce que la voiture aille un peu plus vite. À cette époque, l'automobile que mon père conduisait était une Oldsmobile 1928. Lorsque nous dépassions les 56 km par heure, ma mère disait « Ralentis, ralentis !» Moi, je disais, accélère, papa, accélère. Papa conduisait environ 56 km heure pendant tout le chemin jusqu'à Provo Canyon, ou jusqu'à ce que nous arrivions à un tournant et que notre parcours soit interrompu par un troupeau de moutons. Nous regardions défiler devant nous ces centaines de moutons, apparemment sans berger, avec des chiens, jappant à côté de leur jarret, tandis qu'ils avançaient. Et dans le lointain, nous pouvions voir le berger sur son cheval, sans bride, mais avec un licole. Il était parfois penché en avant sur la selle, en train de somnoler, car le cheval savait quel chemin prendre, et les chiens qui aboyaient faisaient le travail. Comparez cela à la scène à laquelle j'ai assisté à Munich, en Allemagne, il y a de nombreuses années. C'était un dimanche matin, et nous nous rendions à une conférence missionnaire. Je regardais par la fenêtre de l'automobile du président de mission, lorsque j'ai vu un berger, son bâton à la main, qui conduisait le troupeau de moutons. Il le suivait partout où il allait. S'il allait à gauche, il le suivait à gauche. S'il allait à droite, il le suivait dans cette direction. J'ai fait la comparaison entre le vrai berger qui conduit ses moutons et le gardien de moutons qui les suivait nonchalamment. Jésus a dit, Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Fin de citation. Il nous donne l'exemple parfait de ce que doit être un vrai berger. Mes frères, en tant que détenteurs de la prêtrise de Dieu, nous avons la responsabilité de veiller sur le troupeau. Le Seigneur, dans sa sagesse, nous a donné des directives pour que nous soyons des bergers pour les familles de l'Église. Nous pouvons les servir, les enseigner et leur rendre témoignage. C'est ce qu'on appelle l'enseignement au foyer. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. L'évêque de chaque paroisse supervise l'affectation des détenteurs de la prêtrise comme instructeur au foyer pour aller chez les membres chaque mois. Ils le font par groupe de deux. Si possible, un jeune homme qui est prêtre ou instructeur dans la prêtrise d'Aaron accompagne un adulte qui détient la prêtrise de Melchisédek. Lorsqu'ils se rendent dans les foyers des personnes dont ils ont la responsabilité, le détenteur de la prêtrise d'Aaron doit participer à l'enseignement. Cette tâche permet de préparer ces jeunes hommes à faire une mission ainsi qu'à une vie de service de la prêtrise. Le programme d'enseignement au foyer est la réponse à la révélation moderne qui charge les personnes ordonnées à la prêtrise d'enseigner, expliquer, exhorter, baptiser et rendre visite à chaque membre. L'exhorter à prier à haute voix, l'exhortant à prier à haute voix et en secret à remplir tous ses devoirs de famille, de toujours veiller sur les membres de l'Église, d'être avec eux et de les fortifier, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans l'Église, ni de dureté réciproque, ni de mensonges, de calomnies ou de médisances. David de Mackay a déclaré, l'enseignement au foyer est l'une de nos responsabilités les plus urgentes et l'une de nos occasions les meilleures d'édifier et d'inspirer, de conseiller et de guider les enfants de notre Père. C'est un service divin. C'est un appel divin. Nous, les instructeurs au foyer, avons le devoir d'amener l'Esprit de Dieu dans chaque foyer et dans chaque cœur. Si nous aimons cette tâche et faisons notre mieux, nous éprouverons une paix, une joie et un accomplissement immense à instruire avec dévouement et noblesse les enfants de Dieu. Fin de citation. Dans le livre de Mormon, il est dit, Alma consacra tous leurs prêtres et tous leurs instructeurs, et nul n'était consacré s'il n'était un homme juste. Ils veillèrent ainsi sur leur peuple et le nourrirent des choses relatives à la justice. Lorsque nous acquittons de nos responsabilités d'instructeurs au foyer, nous faisons preuve de sagesse si nous informons des difficultés des membres de chaque famille. Et si nous les comprenons, afin de faire un enseignement efficace et de leur apporter l'aide dont ils ont besoin. Une visite d'enseignement au foyer a plus de chances d'être efficace si l'on a pris rendez-vous à l'avance. Pour illustrer ce point, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a quelques années. À cette époque, le comité exécutif missionnaire était composé de Spencer Dwayne Kimball, de Gordon Hinckley et de Thomas S. Monson. Un soir, frère et sœur Hinckley avaient invité à dîner les membres du comité et leurs épouses. Nous venions de terminer un délicieux repas quand quelqu'un a frappé à la porte. Le président Hinckley est allé ouvrir et a vu l'un de ses instructeurs au foyer sur le seuil. Celui-ci lui a dit, « Je sais que je n'ai pas pris de rendez-vous et je n'ai pas de compagnon, mais j'ai ressenti que je devais venir ce soir. Je ne savais pas que vous aviez des invités. » Le président Hinckley l'a invité gentiment à entrer et lui a demandé de s'asseoir et d'instruire les trois apôtres et leurs femmes de notre devoir de membres de l'Église. Avec un peu de crainte, L'instructeur au foyer a fait de son mieux. Le président Hinckley l'a remercié d'être venu et l'instructeur au foyer s'est empressé de partir. Je vous donne un autre exemple de la mauvaise façon d'accomplir l'enseignement au foyer. Marion G. Romney, qui était conseillère dans la présidence il y a quelques années, a parlé souvent de son instructeur au foyer, qui était venu chez eux un soir où il faisait froid. Il avait gardé son chapeau à la main et s'était agité nerveusement quand on l'avait invité à s'asseoir et à donner son message. Resté debout, il avait déclaré, « Vous savez, frère Romney, il fait froid dehors et j'ai laissé le moteur de ma voiture tourner pour qu'il ne s'arrête pas. Je ne fais que passer pour pouvoir dire à l'évêque que j'ai fait mes visites. » Ezra Taft Benson, après avoir raconté l'expérience de frère Romney, au cours d'une réunion de détenteurs de la prêtrise, avait dit, « Mes frères, nous pouvons faire mieux que cela, beaucoup mieux. » Je suis d'accord. L'enseignement au foyer est davantage qu'une visite faite machinalement chaque mois. Nous avons la responsabilité d'instruire, d'inspirer, de motiver. Et s'il s'agit de non-pratiquants, de les ramener à l'Église et de préparer à l'exaltation finale les fils et les filles de Dieu. Pour nous aider dans nos efforts, je cite ce sage conseil qui s'applique sûrement aux instructeurs au foyer. Il vient d'Abraham Lincoln qui a dit, si vous voulez rallier un homme à votre cause, commencez par le convaincre que vous êtes un ami sincère. Fin de citation. Et Adam Benson a lancé cette exhortation. Soyez avant tout un véritable ami pour les personnes et les familles que vous instruisez. Fin de citation. Un ami fait davantage qu'une seule visite mensuelle par devoir. Un ami se soucie plus d'aider que d'être félicité. Un ami est attentionné. Un ami montre son amour. Un ami écoute. Et un ami se tourne vers les autres. L'enseignement au foyer répond à de nombreuses prières et nous permet de voir les changements qui peuvent se produire dans la vie des gens. Par exemple, Dick Hammer, qui est arrivé en Utah avec le Corps civil de protection de l'environnement durant la Grande Dépression. Alors qu'il était ici, il a rencontré et épousé une jeune fille membre de l'Église. Il a ouvert son café à Saint-Georges en Utah et c'est devenu un lieu où les gens aimaient se retrouver. L'instructeur au foyer désigné pour la famille Hammer était Willard Merlin, un de mes amis. Comme je connaissais Dick Hammer du fait que j'avais imprimé ses menus, lorsque j'allais à Saint-Georges, je demandais à mon ami frère Milne, « Est-ce que notre ami Dick Hammer progresse ?» Il répondait généralement, « Oui, mais doucement. » Lorsque Willard Milne et son compagnon allaient chez les Hammer chaque mois, ils donnaient un message de l'Évangile. Ils rendaient témoignage à Dick et à sa famille. Les années ont passé. Et puis un jour, Willard m'a téléphoné pour m'annoncer la bonne nouvelle. Frère Manson, a-t-il dit, Dick Hammer s'est converti et il va se faire baptiser. Il a 89 ans et nous sommes amis depuis que nous sommes adultes. Je suis tellement heureux que sa décision. Cela fait des années que je suis son instructeur au foyer. Il y avait de l'émotion dans la voix de Willard lorsqu'il m'a communiqué cette bonne nouvelle. Frère Hammer a été baptisé et une année plus tard, il est entré dans le beau temple de Saint-Georges pour y recevoir les bénédictions de sa dotation et de son scellement. J'ai demandé à Willard, ne vous êtes-vous jamais découragé ayant été son instructeur au foyer depuis si longtemps? Il m'a répondu, non, cela valait la peine. Lorsque je pense à la joie que les membres de la famille Hammer ont éprouvée, J'ai le cœur rempli de gratitude pour les bénédictions que l'Évangile leur a apportées et pour le privilège que j'ai eu d'y avoir contribué. Je suis un homme heureux. Mes frères, au fil des années, nous aurons le privilège de rendre visite à de nombreuses personnes différentes et de les instruire. Cela inclut des non-pratiquants ainsi que des membres pleinement engagés. Si nous sommes consciencieux de notre appel, nous aurons de nombreuses occasions d'être une bénédiction pour beaucoup de gens. Les visites que nous rendrons aux membres qui ne sont plus pratiquants peuvent être la clé pour qu'ils le redeviennent. Avec cette pensée à l'esprit, tendons la main aux personnes dont nous sommes responsables et amenons-les à la table du Seigneur pour qu'elles se fassent un festin de ses paroles et qu'elles bénéficient de la compagnie de son esprit et ne soient plus des étrangers ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous est tombé dans l'apathie à propos de ces visites d'enseignement au foyer, permettez-moi de dire qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour vous réengager à accomplir vos devoirs en matière d'enseignement au foyer. Décidez maintenant de faire tous les efforts nécessaires pour tendre la main aux personnes dont on vous a confié la responsabilité. Il y aura des moments où quelques encouragements seront nécessaires pour aider votre compagnon d'enseignement au foyer à trouver le temps de vous accompagner. Mais si vous faites preuve de persévérance, vous réussirez. Mes frères, nos efforts en matière d'enseignement au foyer sont permanents. L'œuvre ne cessera pas jusqu'à ce que notre Seigneur et Maître dise « C'est suffisant ». Il y a des vies à éclairer, des cœurs à toucher, des âmes à sauver. Nous avons le privilège sacré d'éclairer, de toucher et de sauver ces âmes précieuse, confiée à nos soins. Nous devrions le faire avec la plus grande fidélité et le cœur rempli d'allégresse. En conclusion, je vais vous donner un exemple du type d'instructeur au foyer que nous devrions être. Il y a un instructeur dont la vie surpasse toutes les autres. Il a enseigné la vie et la mort, le devoir et la destinée. Il a vécu non pour être servi, mais pour servir. Non pour recevoir, mais pour donner. Non pour sauver sa vie, mais pour la sacrifier pour les autres. Il a fait montre d'un amour plus beau que la volupté, d'une pauvreté plus riche que les trésors. On a dit de cet instructeur qu'il enseignait avec autorité, non pas comme le faisaient les scribes. Ses lois n'étaient pas gravées sur la pierre, mais dans le cœur des hommes. Je parle du maître pédagogue, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur de toute l'humanité. Le récit biblique dit de lui qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, en le prenant comme guide et comme exemple infaillible. Nous nous qualifierons pour recevoir son aide divine pour notre enseignement au foyer. Des vies seront bénies, des cœurs seront réconfortés, des âmes seront sauvées. Nous deviendrons de vrais bergers. Je prie pour qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, le grand berger. Amen.
Our beloved Father in heaven,
notre Père céleste bien-aimé, nous inclinons la tête devant toi avec reconnaissance dans notre cœur. Nous sommes reconnaissants pour les messages que nous venons de recevoir. Nous sommes aussi reconnaissants pour les idées et les sentiments qui nous ont touchés pendant cette session. Nous sommes reconnaissants pour cette musique qui nous a réjouis pendant cette session. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète. Nous sommes reconnaissants pour ses enseignements sur l'instruction au foyer. Nous sommes tellement reconnaissants pour le président Monson et nous prions pour lui. Que tes bénédictions soient sur lui. Nous sommes reconnaissants pour la technologie qui nous permet de communiquer avec des détenteurs de la prêtrise à travers le monde, tout spécialement. Nous te remercions pour ton Fils, notre berger, notre Rédempteur, notre Sauveur. Et nous prions que tes bénédictions soient sur nous. Tandis que nous agissons suivant les principes et l'inspiration qui viendra sur nous ce soir, que ta volonté soit faite en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen.